Alors, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, Monsieur le délégué général de Wallonie-Bruxelles, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des lettres du Québec, chers participants à ce colloque et cher public, il me fait plaisir de vous accueillir au nom de l'Académie des lettres du Québec à ce 27e colloque des écrivains sur le thème des métropoles culturelles dans l'espace francophone. Le thème du colloque de l'an dernier, en 2008, organisé par notre Académie, était les littératures de langue française à l'heure de la mondialisation. Ce colloque, dont la conférence d'ouverture a été prononcée par Jean-Marie Le Clézio, a permis de confronter les points de vue face aux différents enjeux de la production littéraire contemporaine de langue française. Nous poursuivons cette interrogation sur la situation des littératures de langue française, cette fois en partenariat avec l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Rappelons qu'un colloque avait déjà été organisé à Bruxelles par la même Académie sur la littérature québécoise en 2002, sous la présidence de Jean Royer, colloque qui a été accompagné d'une publication. Nous sommes très heureux de ces échanges et nous espérons qu'ils donneront lieu à une collaboration régulière entre nos deux institutions. Rappelons aussi que Marie-Claire Blais est membre des deux académies. Elle ne pouvait malheureusement être avec nous aujourd'hui, mais elle nous envoie ses salutations les plus cordiales. Je vous transmets également les salutations de mon collègue Georges Leroux, avec qui j'ai préparé ce colloque et qui ne peut être avec nous car il enseigne en ce moment en France. Et il m'a prié d'assurer l'animation de cette journée. Nous avons donc choisi pour notre colloque de cette année le thème « Les métropoles culturelles dans l'espace francophone ». Quelles sont-elles et de quel pouvoir disposent-elles ? Le manifeste de 2007, publié dans le journal Le Monde, pour une littérature monde en français, affirmait que le centre est désormais partout aux quatre coins de la Terre. Dans quelle mesure cet énoncé se vérifie-t-il? Montréal partage avec Bruxelles plusieurs traits qui font de ces villes des métropoles culturelles d'un monde en émergence. D'abord, la diversité culturelle et la cohabitation de communautés très diversifiées. Mais surtout, au sein d'un univers marqué par la pluralité des langues, une recherche commune d'accueil dans la langue française. Quel est à cet égard le rôle de la culture et en particulier de la littérature? Comment témoigne-t-elle des enjeux de la diversité dans un univers mondialisé et engagé dans un processus de métissage? Comment ces deux métropoles, toutes deux lieux d'organismes internationaux et de transferts technologiques importants, expriment-elles leur évolution? Suffit-il de multiplier les festivals pour acquérir un statut de métropole culturelle? Comment réagir à la culture spectacle qu'on tente de nous imposer de toutes parts? L'axe qui relie Montréal et Bruxelles est sans doute incompréhensible sans leur commun rapport, toujours problématique, à Paris. Si Paris, selon l'ouvrage célèbre de Walter Benjamin, a été consacré capitale du 19e siècle, qu'en est-il aujourd'hui de l'influence de la ville Lumière dans la reconnaissance des littératures de langue française? Dans quelle mesure la notion de métropole s'oppose-t-elle à celle de capitale? Alors que l'image du flâneur et la symbolique de la marchandise ont été identifiées comme liées à la modernité urbaine, quelles sont les nouvelles figures littéraires associées au développement des villes? Ne s'agit-il pas d'abord des figures de la diversité, de l'accueil, de l'hospitalité? L'art des métropoles est-il nécessairement cosmopolite et quel est son rapport aux appartenances singulières qui l'alimentent et le traversent? Dans un contexte de croisement de langues et de cultures, quel lien se noue entre les écrivains et la ville? Vaste question, on en conviendra, auquel nous tenterons de réfléchir ensemble au cours de cette journée. Dans un ouvrage récent, « La traversée de la ville », Michel Tremblay décrit le côté provincial perçu par sa grand-mère Maria lors de son arrivée à Montréal en 1912. Je vous cite ce passage savoureux. « En débouchant dans la rue Sainte-Catherine, elle est un peu déçue. Il y a beaucoup de lumière, c'est vrai. La circulation est dense. Ça sent bon la crotte de cheval qu'un vieux monsieur est en train de ramasser avec une pelle et un seau en louvoyant entre les carrosses qui caracolent et les voitures qui klaxonnent. Les trottoirs, tous en ciment, sont d'une largeur impressionnante, mais elle se serait attendue à quelque chose de plus fou, à une espèce de fête perpétuelle. Une veille de Noël sans fin, parce que c'est comme ça qu'on la lui avait décrite, cette mythique artère, le cœur de Montréal, ses Champs-Élysées. C'est moins large qu'elle ne l'aurait cru, pas aussi bruyant. Les vitrines de magasins ne sont pas toutes éclairées, et il y flotte en fin de compte une sorte de brouhaha provincial, pas très différent de celui des rues commerciales de Providence. Montréal est quand même la métropole du Canada, son port le plus important, sa ville industrielle la plus florissante, la deuxième ville française du monde, à ce qu'on dit. Elle mériterait un centre-ville plus grandiose que celui-là, non? Fin de la citation. Donc, c'était en 1912. Dans quelle mesure le visage littéraire de la métropole a-t-il changé au cours des décennies? Et permettez-moi de rappeler ici très brièvement, à grands traits, les représentations de Montréal telles qu'elles ont été données aux lecteurs à travers les romans depuis le très célèbre Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy en 1945. Entre l'anonymat d'une ville perçue comme menace ou étrangeté et le personnage désespérément rivé à son moi, dépossédé des anciennes valeurs sécurisantes, il n'y a place dans Bonheur d'occasion pour aucun espace mitoyen qui serait ou pourrait devenir un lieu de regroupement et de solidarité. À la question « Comment peut-on être Montréalais ?», le roman répond par la négative « Être Montréalais, c'est ne pas être ». À la suite de Gabriel Leroy dans les années 50-60, Montréal devient un cadre romanesque privilégié où voisine le naturalisme d'un Laberge, la prose critique des écrivains de parti pris ou encore celle ironique d'un Ferron, d'un Godbout, sans oublier celle plus romantique d'un Jean Basile. À partir de 1970, après avoir essayé pendant deux décennies de donner une dimension romanesque au personnage déraciné qu'est encore, dans la majorité des cas, le citadin et plus particulièrement le Montréalais, les écrivains lui tournent le dos. Comme s'il y avait là le résultat d'une étrange concertation, la ville disparaît peu à peu de la carte. Les romanciers optent pour d'autres espaces de fiction. Jacques Godbout délaisse les murs de l'appartement de Côte-des-Neiges occupé par le personnage narrateur de D'amour PQ pour respirer l'air encore non pollué de l'île aux dragons. Roch Carrier quitte la ville en perpétuelle démolition, dans le 2000e étage, pour retourner aux traditions ancestrales et à l'univers du conte dans « Il n'y a pas de pays sans grand-père ». Montréal, de ville inhumaine, se transforme ainsi progressivement en ville désertée, désaffectée. Dans l'hiver de force, Régent Ducharme, par l'intermédiaire de cette Bible consacrée par le couple La Flore Laurentienne, arrive à faire de Montréal, symboliquement, une sorte de jardin suspendu, à condition d'oublier, le temps d'une lecture, je cite, les derniers restes de l'hiver, ces sortes d'eau sale qui achèvent de fondre sur le béton du trottoir. Il faut attendre la fin des années 70 avec Michel Tremblay, ses chroniques du plateau Mont-Royal, pour que le roman québécois prenne définitivement possession de la ville, qui devient plus qu'un cadre, un véritable personnage de fiction. Suivront d'autres grandes fresques romanesques, telles que Le Matou d'Yves Beauchemin ou Maryse de Francine Noël. Dans chacun de ces récits, l'intrigue se centre autour d'un quartier, voire d'une rue ou de quelques lieux, et d'un groupe de personnages appartenant à une classe sociale en particulier. D'où l'aspect unifié que présentent ces chroniques, d'où également l'homogénéité culturelle qui se dégage de ces représentations et parfois leur côté village. En 1980, La vie en prose de Yolande Villemer, que Jacques Allard, mon prédécesseur à la présidence de l'Académie, a déjà désigné dans un colloque consacré à Marseille et à Montréal comme la ville en prose. Donc, La vie en prose, le roman de Villemer, insiste sur le visage éclaté de la ville. D'autres auteurs, comme Régine Robin dans La Québécoise, présentent les divers visages de Montréal selon les quartiers. Ville éclatée, incapable de sédimenter les cultures. Montréal serait par excellence la ville de la déambulation, du passage. un Montréal hétéroclite qui devient pour la narratrice la ville par excellence de la migrance. Dans un recueil de nouvelles, L'immense fatigue des pierres, Robin précise cette idée de Montréal comme ville du hors-lieu, alors qu'elle y imagine une mère et sa fille d'origine juive l'ayant élue comme domicile. Suzanne Jacob a bien décrit ce patchwork qui emprunte à toutes les cultures, en vrac. Je cite, « Supposons que tu débouches de la montagne et que tu prennes la rue Mont-Royal vers l'est au moment où un orage éclate. Bon, supposons qu'au même moment, au FM de Radio-Canada, éclate une cantate de Bach à son paroxysme. De la buée dans le pare-brise, tu mêles ton ventilateur en route, tu baisses un peu la vitre, la pluie rentre dans l'auto. Bon, là, c'est Montréal. Ça va être Montréal pendant tout l'embouteillage qui va suivre, de l'avenue du Parc à la rue Rivard. C'est unique au monde. Ça devrait être classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en veillant à garder tous les éléments. L'orage, la cantate, la buée, l'embouteillage et le caractère québéco, indo, roco, vidéo, sino, western de la ville. » Fin de la citation. Ce Montréal hétérogène et hétéroclite est réapparu tout récemment dans un roman posthume d'Émile Olivier qui offre une nouvelle image de la ville, cette fois comme ville rhizome dont les courants souterrains sont imprévisibles. Dans La Brûlerie, Émile Olivier fait vivre le quartier Côte-des-Neiges, cet arrondissement urbain de Montréal. C'est là que le narrateur, Jonas Lazare, depuis la terrasse d'un café, voit passer tour à tour une romancière polonaise et son mari en jabot de dentelle, un premier ministre commandant une pizza all dressed, ou un poète archaïque et rapaillé, piéton de bitume et de pierre. C'est ce quartier en mosaïque, avec son côté village studieux, formé des bâtiments de l'université, des librairies, des commerces spécialisés, et son côté plus populeux, témoin des trafics en tout genre, qui se présente comme un microcosme de l'humanité. Et le narrateur de préciser à l'ami qui veut devenir écrivain, « Je lui dis qu'un vrai travail d'écriture sur Montréal devrait commencer par mettre en scène la parole nomade, la parole migrante, celle de l'entre-deux, celle de nulle part, celle d'ailleurs ou d'à côté, celle de pas tout à fait d'ici, pas tout à fait d'ailleurs. Je lui dis que dans cette ville aux quatre solitudes, celle d'être francophone, anglophone, immigrant et noir, il faudrait montrer comment notre présence bouscule, bariole, tropicalise le lieu montréalais. » Donc, pour reprendre les termes de Borges à propos de Buenos Aires, les seules beautés sont involontaires. Ville aux beautés involontaires, on pourrait dire aussi de Montréal qu'elle est une ville imaginaire, dans la mesure où il y a autant de visages de Montréal qu'il y a d'écrivains montréalais. Et ce n'est pas un hasard si le titre « Montréal imaginaire » a été retenu pour la vaste recherche entreprise il y a quelques années par une équipe réunie autour de Gilles Marcotte et de Pierre Neveu. Montréal est une ville sans cesse recommencée, redéfinie selon les désirs de ses arrivants, comme dans Les Aurores Montréal de Monique Proulx. Ville caméléon, Montréal est-elle une véritable métropole culturelle? Montréal est une ville intéressante et vivante, déclarait récemment Simon Brault, Simon Brault qui est président de Culture Montréal, parce que nous avons constamment des défis d'ordre linguistique à surmonter. Mais à l'ère des mégapoles, ces villes mythiques de plus de 10 millions d'habitants, décrites par Régine Robin dans Mégapolis comme portant pour la plupart la richesse du monde, ses espérances et ses déchirures, avec d'énormes poches de pauvreté. Donc la notion de métropole a-t-elle encore un sens? Qu'en est-il de la situation de Montréal par rapport à d'autres métropoles telles que Bruxelles et Paris? Alors, je renvoie ces questions aux participants de ce colloque. Je rappelle maintenant que la journée se terminera par un spectacle de l'humoriste belge Bruno Coppens, spectacle qui nous est offert grâce à la collaboration de la délégation Wallonie-Bruxelles. Et se terminera également par le lancement des actes du colloque de 2007, « La poésie comme expérience ». Je dis aussi que les interventions de ce colloque seront diffusées en balado-diffusion à Radio Spirale.